Bonsoir à tous. On rentre très nettement dans une nouvelle période de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mois de décembre est bien commencé. L'une des particularités du mois de décembre, un des indices qu'on rentre vraiment dans cette période, c'est la température. Et je voudrais tout d'abord avoir une pensée de compassion à l'égard de tous nos amis africains qui sont là pour la première année et qui vont vivre leur premier hiver en France. Soyez bénis, vous allez avoir besoin de la bénédiction du Seigneur. Soyez courageux, on est là avec vous, on va vous soutenir dans la relation fraternelle, pas de problème. Mais en même temps, c'est une bonne période. Moi, je sais que personnellement, c'est une période que j'aime bien parce que quand on arrive au mois de décembre, on arrive dans la période de Noël. Et Noël, c'est une fête que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère particulière. Pas plus tard qu'hier, je suis allé en ville, j'avais une course à faire. Et je suis passé dans la rue Saint-Aubin, dans la rue piétonne, et il y avait les haut-parleurs qui étaient installés, il y avait de la musique qui passait, et c'était des chants de Noël. Je crois que c'était même Minuit Chrétien qui passait. Je veux dire, ça fait du bien d'entendre Minuit Chrétien comme ça, tu te balades en ville et t'entends un chant qui parle de Jésus, un chant qui parle du Seigneur, c'est quand même pas si fréquent que ça. Parce que Noël, c'est quand même l'avenue de Jésus, et dans 3 semaines, on va fêter Noël. La semaine prochaine, on va faire le Noël des jeunes, on en reparlera tout à l'heure. Et ça va être un bon moment. Noël, c'est la période des cadeaux. Alors, vous avez fait votre liste? Vous avez fait vos commandes? Vous avez commandé quoi pour Noël? Ça m'intéresse de savoir ce que vous voulez à Noël. Qu'est-ce que vous avez commandé? Allez-y, dites partager avec nous. Vous n'y avez pas pensé encore, si? Du chocolat. Ouais, ça, c'est la période du chocolat. Il y a des tonnes de chocolat qui sont vendus dans cette période de l'année aussi. Chloé, c'est du chocolat. D'autres choses que vous allez avoir à Noël? Ouais. Un CEPA sorcier. Un CEPA sorcier. Les vidéos? Oui, d'accord. Ok. Sur un thème qui va te rendre plus savant, j'imagine. C'est fait pour ça. D'accord. Et d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir pour Noël? Qu'est-ce qu'on vous offre à Noël? Qu'est-ce qu'on vous a offert à Noël, même l'année dernière, je ne sais pas, les cadeaux qui vous ont le plus plu qu'on vous a donné à Noël? Tiens, on va présenter ça comme ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus plu comme cadeau de Noël? Voyons, c'est morne, mon Noël. C'est la fête. Ok, d'accord. Vous savez qu'un des cadeaux qui est le plus offert dans la période de Noël, c'est le parfum. Le parfum. Vous avez sans doute remarqué, mais à la télé, à chaque fois qu'il y a une page de pub, dans n'importe quelle émission, vous avez 2, 3, 4 parfums qui vous sont présentés dans la page de pub. Vous avez Lancôme, vous avez Lacoste, vous avez Chanel, vous avez Thierry Mugler, vous avez Kenzo, tous les slogans, si à la liberta et tout ça, là, vous voyez ça? Vous les connaissez? On en voit tout le temps, elles hein, parlent tout le temps. Hein. On les connaît tous. Dans un monde de conventions, dans un monde et hop, tout ça là. C'est vrai, on est submergé de pubs pour le parfum. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a 25% des ventes de parfums qui se font sur les 2 dernières semaines du mois de décembre. Entre le 15 décembre et le 31 décembre, vous avez un quart du volume total du parfum qui est vendu en France qui se fait à ce moment-là. C'est vraiment l'époque des parfums. Moi, je vous parle du parfum parce que justement, j'ai eu un cadeau à Noël l'année dernière et on m'a offert un parfum. C'est ma sœur qui m'a offert un parfum et c'était un parfum Dior. Dior, c'est classe quand même, hein, parfum Dior. Et Dior, je pense qu'en fait, ma sœur, elle m'a offert le parfum qui me correspond certainement le mieux. Il y a tellement de parfums, tellement de nuances dans les odeurs que on n'aime pas forcément toutes les nuances. Hein. Mais là, ma sœur, je crois qu'elle a tapé vraiment dans le mille pour 2 raisons, je crois. Tout d'abord, parce que ce parfum de chez Dior s'appelle Sport. Et moi, le sport, c'est vraiment quelque chose que, depuis des années et des années, je voudrais faire. Quand je vois quelqu'un, par exemple, qui fait du jogging, je me dis « Ah, j'aimerais bien faire ce qu'il fait !» Voilà, quand je regarde un match de foot à la télé et qu'il y a un gars qui loupe une action, je me dis, oh non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et je me sens capable sur le terrain de faire mieux que ce que le joueur a fait. Donc pour moi, le sport, vous voyez, je suis quand même impliqué. Je suis très très impliqué. Donc ça, c'est le premier point. Ça s'appelle sport. Voilà la bouteille, voilà l'échantillon. Et le deuxième point qui montre que ce parfum me correspond particulièrement, c'est que l'égérie masculine de Dior, c'est l'acteur américain Jude Law. Vous voyez qui c'est ? Je vous rappelle. Voilà, c'est Jude Law. Et si je me mets à côté de lui, on voit quand même que forcément, ça me correspond. On a un point commun, évident, on a tous les deux des cheveux. Ok ? Donc, ça me correspond. Et puis, il y a quelques temps de cela, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même qui se sont écoulés après Noël. Et un jour, j'étais dans la voiture. J'étais allé chercher ma fille, Flavie, au collège. Et puis, alors qu'on était sur le chemin du retour par cette belle journée de printemps, voilà qu'elle me pose cette question. Elle me dit, mais papa, est-ce que tu mets le parfum que ta sœur t'a offert ? Et mince, je dis, mais non, jamais je pense à mettre le parfum sport de chez Dior, quand même, que ma sœur m'a offert à Noël. J'avais pratiquement jamais fait. Ça m'a amené à me poser la question, je dis, parce que j'ai jamais pris l'habitude de me parfumer. C'est pas un truc, j'ai pas le réflexe du parfum. Et je me suis dit, mais pourquoi d'ailleurs, pourquoi est-ce que je me parfume pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas ce réflexe? Pourquoi est-ce que j'ai pas pris cette habitude? Alors j'ai fait un travail sur moi-même, un travail d'introspection pour essayer de comprendre les racines de cette non-habitude. Je me contente du déodorant, j'avoue, la plupart du temps. Et je me souviens, alors je ne sais pas si c'était vraiment déterminant, mais je crois que ça a joué, que lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de mettre du parfum et j'étais parfumé pour les grandes occasions. Quand on était invité à un mariage ou quand il y avait une occasion de réunion familiale, à ce moment-là, je mettais du parfum. Et presque systématiquement, mon grand-oncle ou ma grand-mère, quand ils sentaient le parfum que j'avais sur moi, ils me disaient, c'était sous forme de blague, ils disaient « Oh, ça sent la cocotte ici !»« Tu sens la cocotte !» Eh ben, quand on est enfant et qu'on te dit « tu sens la cocotte » alors que mon identité masculine était en formation, je dis oh, « la cocotte toi-même, ok ?» Je suis pratiquement sûr que c'est lié à quelque chose comme ça. Mais si Flavie m'a posé cette question, c'est parce qu'elle se rendait compte de la valeur du parfum. Eh, quand même, c'est du parfum de chez Dior. Donc si t'en mets pas, le parfum, il est gâché. Si tu le laisses là dans le meuble de la salle de bain, que tu ne l'utilises pas, ça sert à rien. Ce parfum de grande valeur, il faut qu'il serve. Et vous savez que dans la Bible, il est question d'un parfum de grande valeur, qui est lui aussi est appelé à servir. Il est appelé le parfum de la connaissance de Christ. Ça fait un peu long comme nom de parfum. Généralement, c'est beaucoup plus court. Mais il est question du parfum de la connaissance de Christ. Il en est question dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 2. Et on va lire ce passage ensemble. C'est ce texte-là qui va servir de support pour notre réflexion qu'on va avoir ensemble ce soir. De Corinthiens 2, verset 14, et on va aller comme ça jusqu'au verset 17. Et là, Paul écrit « Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège triomphal du Christ. Par nous, il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet le parfum à l'odeur agréable de Christ offert à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont perdus. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission ? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui bradent la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence, en communion avec le Christ. Alors on va revenir sur ce texte-là pour bien le comprendre. Mais tout d'abord, là, il y a une image que Paul utilise. C'est une image que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer par le passé. C'est l'image du triomphe. Là, il en est question dès le début, là, au verset 14. Le triomphe, souvenez-vous, c'est une cérémonie romaine qui était destinée à célébrer une victoire militaire qui avait été remportée par un général. Et le chef victorieux défiler sur un char à la tête de ses troupes sous les acclamations de la foule. Et il y avait tout un immense défilé comme ça qui traversait la ville entière de Rome pour célébrer le triomphe, pour célébrer la victoire de ce général. Et dans cette procession, on montrait le butin et tous les ennemis qui avaient été faits prisonniers et qui avaient été enchaînés. Le triomphe, c'était la démonstration publique de la défaite de l'ennemi. C'était une façon de dire, vous voyez, l'ennemi a été vaincu, vous pouvez le constater de vos yeux, vous n'avez plus rien à craindre. Et dans le défilé, après l'ennemi vaincu qui était montré, suivaient les soldats qui avaient participé à la campagne militaire et qui avaient vaincu sous le commandement et sous la direction du général romain. Ce qui fait que le triomphe, c'était aussi la proclamation de la victoire du général romain. Et les soldats étaient entraînés par le général dans le triomphe. C'est ce qui est dit au verset 14. Là, on est entraîné dans le triomphe. Et dans le triomphe dont parle Paul, le général victorieux, bien entendu, c'est Christ, c'est Jésus. Et la victoire qu'il a remportée, c'est la victoire qu'il a remportée sur le péché, sur le mal, sur la mort même, et sur toutes les forces du mal. Tous les ennemis vaincus, ça représente tout ce que Jésus a battu, toutes ces forces du mal, la mort elle-même, puisqu'il est mort, mais il est ressuscité. Et puis, les soldats qui sont là dans le défilé, dans le cortège, ce sont les chrétiens, ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui croient en sa parole, qui croient en son action, et qui marche dans la victoire qui a été remportée par Christ. C'est ça, cette image que Paul reprend. Mais Paul utilise un autre détail du triomphe, et c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter plus particulièrement ce soir. C'est que pendant la procession, pendant le défilé, de l'encens, du parfum, donc, était brûlé en l'honneur des dieux, et l'odeur était répandue dans le défilé. Ça veut dire que cette odeur, elle touchait les ennemis qui étaient vaincus, elle touchait aussi les soldats victorieux. Et puis cette odeur, elle se répandait tout autour du défilé, jusque dans les rangs des spectateurs, jusque dans les rangs de la foule qui était là, qui s'était massée et qui acclamait le général victorieux. L'odeur du parfum se déplaçait avec le cortège. Et Paul s'appuie sur cette pratique pour dire aux chrétiens et aux chrétiennes que ce sont eux qui sont chargés de répandre, de diffuser l'évangile, et que ça doit être comme diffuser ou comme répandre un parfum. Vous saisissez l'image là que Paul utilise, c'est comme diffuser une bonne odeur. Les chrétiens et les chrétiennes sont eux-mêmes comme un parfum qui répand la bonne odeur de Christ. Et ça souligne bien évidemment la responsabilité des chrétiens et des chrétiennes dans la diffusion, dans le partage du message de l'évangile. Quand on a connu Jésus, quand on voit l'œuvre qu'il accomplit dans notre cœur, quand là il nous redonne la force, l'espérance ou la guérison, bah ça nous touche, ça nous émerveille. Et puis généralement la suite logique de ça, c'est que bah on a envie de le partager, on a envie de le faire connaître ce qu'il a accompli pour nous. On a envie que les autres le sachent, le connaissent pour que Dieu puisse l'accomplir dans leur vie. Alors on va voir quelques points. Je voudrais voir un premier point avec vous tout d'abord. C'est que le témoignage, le fait d'être ce parfum, de diffuser l'évangile de cette manière-là, c'est un message. Le témoignage est un message. Le but de mettre du parfum, c'est d'être agréable à ceux qui nous entourent. Si tu mets du parfum, je pense que c'est pas pour faire fuir les gens, on est bien d'accord? C'est plutôt pour les attirer. C'est ça le but du parfum. L'odeur du parfum, c'est le résultat d'une habile conjugaison de ce qu'on appelle des fragrances. Différentes odeurs qui sont ajoutées les unes aux autres, et c'est ce qui crée cette odeur-là. On prend là des toutes petites doses de violette, par exemple, et puis on va prendre une autre petite dose de rose, à laquelle on va ajouter une autre petite dose de vanille, et peut-être un peu de bergamote, enfin je sais pas, toutes ces choses-là, tous ces ingrédients différents. Et de ce mélange, de cette association de différents éléments, ça va sortir une odeur subtile, une odeur agréable qui va se faire remarquer, qui va attirer même. Parce que le but du parfum, c'est un peu ça, je crois. C'est quand même un peu de se faire remarquer. Au moins, c'est de manifester sa présence. Parce que si tu veux pas qu'on te voie, si tu veux pas qu'on fasse attention à toi, tu mets pas de parfum. Par contre, bon, si tu mets du parfum, c'est un peu quand même pour manifester ta présence. On peut te repérer grâce à ton parfum. Si tu t'es parfumé et puis que tu passes dans la pièce, là, on va dire « Oh tiens, Guillaume est passé ». C'est parfumé, dans le cas où il se parfume. Par exemple, on peut te repérer grâce à ton parfum. Et Paul dit que la vie chrétienne est appelée à être comme un parfum. C'est cette image-là qu'il a utilisée, qu'on vient de lire. Ça veut dire que la vie du chrétien est susceptible d'attirer l'attention, d'être remarquable par sa différence. La différence qui s'exprime dans la manière de parler, par exemple, la politesse, tout simplement, l'attention qu'on peut être amené à apporter à ceux qui nous entourent, les paroles positives, les paroles encourageantes, la joie, alors même quelquefois les circonstances peuvent être difficiles, la fidélité dans la parole donnée, et ce qui fait qu'on peut te faire confiance, la maîtrise de soi, qui est tellement importante dans des moments où il y a un peu de tension, et bon, là tu sens que ça monte et tu as envie d'éclater, mais tu te maintiens, tu as cette maîtrise de soi, cette constance. Tout ça, ça se remarque. Et ça se remarque dans un monde où la plupart du temps, c'est quand même plutôt chacun pour soi. Ou dans un monde où l'humeur des gens dépend beaucoup des circonstances. Si il fait beau, on est content. Si il fait froid ou s'il pleut, on fait la tête et puis on est plus facilement irritable. Dans un monde où c'est si facile de critiquer, si facile de souligner les défauts des autres, si facile de mentir, de calomnier, pour pouvoir y arriver. Dans un monde où règne la compétition et où règne la jalousie. Eh ben, si là tu reçois ce que Christ a à te donner et que tu le diffuses, tu le vis, ça va se remarquer, ça va être comme un parfum. Si ta vie reflète ce que la Bible enseigne, c'est agréable, ça se remarque et même ça attire. Il y a bien des manières différentes de faire connaître le message de l'Évangile, ce message de joie, ce message de salut. Et Marido en a évoqué quelques-unes lorsqu'elle nous a parlé de ça là, le mois dernier. Il y a toutes les réunions régulières, comme celle que nous avons ce soir. C'est une occasion qui nous est donnée pour pouvoir connaître l'Évangile, se familiariser avec ce message de l'Évangile, pour mieux connaître Jésus. Il peut y avoir des distributions, où on distribue des traités ou des invitations pour faire connaître l'Église. On peut organiser des événements, c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines, quand Yanis Gauthier est venu, par exemple, et puis qu'on est allé dans la salle, là, dans ce quartier, là, à Angers, et que Yanis a pu partager avec nous et d'autres personnes son témoignage, qui est incroyable, qui est saisissant. C'est vraiment un témoignage incroyable de l'œuvre de Dieu dans une vie. Donc, on peut avoir aussi un super site internet qui présente les activités de l'Église, où il y a des messages qui peuvent être édifiants, encourageants. Mais tout ça, ça ne pourra jamais remplacer le contact personnel qu'on peut avoir avec les gens qui sont tout autour de nous. Parce que partager sa foi, c'est surtout une question de relation. Si tu avais la possibilité de poser la question à toutes les personnes qui viennent le dimanche matin, on est plusieurs centaines de personnes chaque dimanche matin, et si tu pouvais leur poser la question, mais comment est-ce que vous êtes venu? Comment est-ce que vous avez connu Jésus? Comment, là, vous avez fait cette expérience de relation avec Dieu? Eh bien, je suis certain que 98 à 99% te répondraient, c'est un tel qui m'a parlé de Jésus. C'est cette personne qui fait partie de ma famille qui m'a parlé de Jésus. Ou c'est un ami, ou c'est une amie. Et ça s'est passé comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres choses sont inutiles, parce que, ça, bien sûr, c'est aussi des moyens et ça porte du fruit, mais pas du tout à la même dimension. Donc c'est surtout une question de contact personnel. Et ça correspond à ce que dit Paul. Si l'on veut savoir comment et où partager l'Évangile, la réponse, on la trouve au verset 14. « Par nous, il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Le moyen, c'est chacun d'entre nous. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et où ? C'est là où on est. C'est dans notre famille, c'est dans notre cercle d'amis, c'est dans notre voisinage, c'est à l'école, c'est à la fac, c'est au travail, c'est au club de sport, comme moi je fais par exemple. Alors il ne faut pas oublier de se parfumer pour que ceux qui nous entourent captent cette bonne odeur de Christ. Ça, c'est vraiment dans la définition même d'être du chrétien. Pour moi, je le disais tout à l'heure, ce n'était pas automatique, et ce n'est pas forcément automatique de me parfumer. Mais je sais que depuis que Flavie m'a fait cette remarque, j'en mets plus souvent, j'y pense beaucoup plus souvent. Et d'ailleurs, elle l'a remarqué, parce que maintenant, quand elle entre dans mon bureau, elle dit « ça sent bon !» Elle a envie de camper dans mon bureau maintenant, tu vois, elle a envie de s'installer. Ouais, il faut y penser, c'est bien de demander au Seigneur de nous aider à être quotidiennement fidèles à sa parole. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra diffuser de bonnes choses autour de nous, là où nous sommes. Mais on peut les diffuser que si on les a reçues, ces choses. Et on reçoit ces bonnes choses quand, comme on le fait ce soir, on est à l'écoute de sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'on va connaître sa volonté, qui est bonne, qui est parfaite, qui est bonne pour chacun d'entre nous. Et quand on reçoit ces choses-là, quand on les connaît, on les comprend, on en devient les porteurs. Et naturellement, on diffuse ça autour de nous. On reçoit ces bonnes choses dans ce qu'on se communique les uns aux autres dans ces moments de rassemblement. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai partagé avec vous quand on a parlé des relations fraternelles, mais on s'influence les uns les autres. On s'influence pour de bonnes choses, on s'exhorte les uns les autres. On s'exhorte à la patience, parce que dans le cadre des relations qu'on a les uns avec les autres, ça s'apprend, ça, la patience. On s'exhorte à la maîtrise de soi, on s'exhorte à la compréhension, on apprend à se comprendre, à s'écouter. Et plus on prend l'habitude de faire ça, et plus on va le répandre, plus on va le diffuser autour de nous, et on va faire du bien. On va diffuser quelque chose qui va être agréable là où on sera placé. Là, c'est ce qui nous permet de développer l'image de Christ en nous, tout simplement. Ces bonnes choses, nous pouvons les recevoir si nous avons vraiment une démarche de foi, de confiance par rapport à Dieu, et si on demande au Saint-Esprit de nous changer. Parce que, bien souvent, dans notre personnalité, dans notre caractère, il y a des choses qui peuvent, des fois, poser problème. Et on sent que ça a un impact sur les relations qu'on peut avoir dans notre famille ou avec les gens avec qui on travaille, qu'on côtoie habituellement. Et là, on est conscience qu'on a vraiment besoin de Dieu. Dire, moi, là, je ne peux pas changer. Là, je sais comment je réagis, je sais comment ça se passe dans telle ou telle situation. Alors, Seigneur, là, par ton esprit, change-moi, interviens en moi. Fais ce travail que je ne peux pas faire. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Le témoignage, c'est un message. Et le message, il va passer par ce qu'on diffuse. Le deuxième point que je voudrais voir, c'est que le témoignage est affaire de dosage. Si ta vie parle, les choses vont venir presque naturellement. Souvent, on se dit « Ah, c'est vrai, je suis vraiment content d'être chrétien, je suis vraiment content de vivre ce que je vis, mais je suis pas à l'aise, j'ose pas trop le partager avec ceux qui m'entourent. J'ai peur peut-être qu'ils me prennent un peu pour un fou ou une folle, parce que dire qu'on croit en Dieu ou en Jésus aujourd'hui, c'est pas si évident, quoi. » Mais si tu vis les choses comme ça, eh ben, ça devient beaucoup plus simple, ça devient beaucoup moins compliqué. Parce que ça va se remarquer. Si tu diffuses des choses qui sont agréables, si tu diffuses des choses qui peuvent se remarquer, soit on te posera des questions, ou soit tu auras suscité assez de respect pour prendre l'initiative de parler de ta foi. Ce ne sera pas la peine de trouver des méthodes, de forcer les choses ou de mettre en place des stratagèmes pour parler de Jésus. Non. Ce sont tes paroles et ton comportement qui vont le permettre. C'est comme ça que ça va se passer. Un jour au lycée, j'avais quand même décidé de mettre du parfum. Malgré mon traumatisme, dont je n'étais pas conscient à l'époque, je me suis dit, allez, j'y vais, je fais le pas, je vais mettre du parfum. J'étais en terminale A2 précisément, ça n'existe plus. C'est l'équivalent de terminale L, je crois, aujourd'hui. A2, c'était lettres et langues. Moi, j'étais littéraire à fond. Là où il n'y avait pas de maths, là où il n'y avait pas de physique, moi, j'étais vraiment philo, langue et tout ça. Dans la filière A2, dans le lycée où je me trouvais, sur environ 25 élèves, on était 7 garçons. Comme si les lettres, c'était un truc de filles, je ne sais pas pourquoi. On n'était que 7 garçons. Alors, autant te dire que, question parfum, dans la classe, on s'y connaissait, quoi. Et puis, donc, j'ai fait ce pas-là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que j'avais un ami avec qui j'avais sympathisé. Et souvent, on se mettait l'un à côté de l'autre. Et j'avais remarqué que des fois, lui, il se parfumait. Je veux dire, il n'avait pas peur de sentir la cocotte, il n'avait pas peur qu'on lui fasse une réflexion. Alors je me suis dit, allez, j'y vais, tant pis, j'y vais, je me parfume. Alors je me suis parfumé. Et puis, au moment où je suis rentré dans la classe, je me suis assis dans un groupe de filles. Et puis, il y a une fille qui dit, wow, là, dis donc, il y a quelqu'un qui a mis beaucoup de parfum quand même. Puis il y a une autre fille qui a renchéri, qui a dit, ouais, ça sent fort là. Ouf, voilà. J'ai senti mon visage devenir rouge, tu vois, je me voyais pas, mais il y a une espèce de gêne profonde qui est montée, toutes ces filles là qui disaient, alors je me suis pas décontenancé, je dis, oh là, oui, dis donc, ça sent un peu trop fort le parfum. Alors je me suis levé, je suis sorti de la salle de classe, et puis dans le couloir, je faisais comme ça. J'ai attendu quelques minutes et puis je suis revenu. Alors bon, j'espère que c'est passé inaperçu. Je sais pas. Mais quand on met trop de parfum, ça attire pas en fait. Ça a l'effet contraire, ça repousse plutôt. On le remarque, ça c'est sûr, mais en fait c'est pour te faire fuir. Et toi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de témoignage sans dosage. Il faut que tu doses les choses. Parce que tu peux vraiment avoir le désir sincère de partager ta foi et de parler de ta foi et de Jésus aux autres, mais si tu es trop insistant, si tu fais du forcing, si tu veux un peu imposer les choses, si tu te mets au-dessus des gens, le témoignage, il devient dérangeant. Et c'est pas sûr que tu puisses vraiment faire passer ce que tu as envie de partager. Parce que partager sa foi, quand même, ça demande de rester humble. Ça demande de rester humble. On n'est pas au-dessus des autres parce qu'on est chrétien ou parce qu'on est chrétienne. Ça demande d'être respectueux des autres, respectueux de l'opinion des autres aussi, bien entendu. Être chrétien, c'est présenter l'évangile, mais sans forcer. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait que dans sa famille, il y avait sa sœur qui s'était convertie avec son beau-frère. Et lorsque sa sœur s'était convertie, elle parlait de Jésus, elle parlait de l'expérience qu'elle avait faite. Mais dans sa manière de présenter les choses, elle prenait vraiment les choses de haut, en fait. Elle tenait pas du tout compte de la personne qui était en face d'elle. Elle était vraiment insistante et c'était un peu cassant, même plutôt cassant, jugeant. Et ça a eu l'effet contraire. C'est-à-dire que cette personne-là, elle en voulait pas de l'évangile parce que elle se sentait jugée, elle se sentait pas prise en considération en tant que personne. Et puis elle a eu l'occasion de fréquenter sa sœur, de la voir vivre d'un peu plus près. Et puis elle a vu quand même qu'il y avait une certaine cohérence entre ses paroles, entre ce qu'elle disait et ce qu'elle vivait. Et notamment, elle l'a vu vivre, elle a vu ses relations avec ses enfants. Elle voyait notamment que quand elle faisait quelque chose qui n'était pas forcément bien, elle s'excusait auprès de ses enfants, par exemple. Elle disait à ses enfants, mais tu sais, moi, j'apprends à être parent en t'élevant. Donc il y avait là une certaine humilité qui l'a frappée et qui a créé ce déclic à un moment donné chez cette personne qui a fini par devenir chrétienne. Mais au départ, c'était pas ça. C'était même un repoussoir parce que c'était vraiment trop insistant. Donc il y a une question de dosage et il faut vivre les choses de façon équilibrée. Être chrétien, c'est pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, être foufou. Non, non, il faut faire les choses avec sagesse, avec équilibre. Et puis le troisième point que je voudrais voir avec toi ce soir, c'est que le témoignage n'est pas un camouflage. Paul parle des personnes au verset 17 qui bradent la parole. Verset 17, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui bradent la parole de Dieu. Paul emploie ici un verbe qui était utilisé à son époque pour parler du commerce malhonnête. Guillaume nous a expliqué, nous a donné un exemple la dernière fois qu'il est intervenu. Il nous a dit que dans l'Antiquité, il y avait certains vendeurs de statues qui vendaient des statues comme si elles étaient neuves, alors qu'en réalité, elles étaient abîmées, elles étaient tombées et elles étaient recollées avec de la cire. Vous vous souvenez de cette explication ? Et ce que Guillaume a expliqué pour les statues, c'était aussi valable pour les vases. Il y avait des vases qui étaient vendus. Les vases, ça servait à beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Et il y avait certains vases qui étaient ébréchés, mais qui étaient habilement recollés avec de la cire, ce qui fait qu'ils étaient présentés comme des vases tout neufs, alors que c'était pas la réalité. Eh ben, ça, c'est exactement ce qu'il y a derrière l'idée de ce verbe que Paul utilise quand il dit qu'il y en a qui bradent la parole de Dieu. Ça veut dire que le gain personnel de la vente est plus important que le produit qui est vendu. Ces personnes bradent l'évangile parce qu'elles s'affichaient comme chrétiennes, mais elles étaient plus motivées par ce que ça leur apportait que par l'évangile. Elles faisaient des concessions par rapport au message de l'évangile et, on peut dire, elles transmettaient un évangile qui était dévalorisé. À partir du moment où ils témoignaient, on va dire, mais c'était pour se valoriser, eh ben, ça dévalorisait l'évangile. Ça, c'est l'attitude de ceux qui se disent, de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, l'attitude de ceux qui disent qu'ils vont à l'église, mais leur choix de vie n'est pas conforme à ce que dit la parole. Il y a un décalage entre ce qu'il y a dans leur parole, entre ce qu'ils présentent et ce qu'ils vivent, ce qu'ils appliquent dans leur vie personnelle. Ils se disent chrétiens par fidélité à leur tradition familiale, à l'éducation qu'ils ont pu recevoir. Mais il y a quand même une limite qui ne va pas être franchie dans l'affirmation de sa foi pour éviter, par exemple, d'être rejeté par les gens qui fréquentent. Et en fait, chrétien, ça va être juste ça. Ça va être juste, bah, je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne. Mais au niveau de la mise en pratique de la foi, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura des concessions qui sont faites avec le contenu de l'évangile. Ou alors des gens qui se disent chrétiens, mais ça va être par souci de s'affirmer. ça va être par souci de se démarquer des autres. Voilà, je suis chrétien, je suis croyant dans un monde d'incroyants. Alors, on veut marquer sa différence comme ça. Je suis chrétien évangélique dans un monde catholique. Voilà. Ça, c'est une manière de faire, mais à son profit, en se valorisant soi, mais pas en valorisant l'évangile, le message de l'évangile, parce que c'est d'abord ça qui est important, c'est que les gens ils connaissent Jésus. Quand j'étais au lycée, je vais vous raconter encore une petite histoire, je logeais à l'internat. Première terminale, j'étais à l'internat. J'avais de la chance parce que j'avais le droit à une chambre. C'est une petite chambre, hein. Je ne sais pas, ça faisait peut-être 10 mètres carrés, à peine, même pas. Et donc les secondes, ils étaient au dortoir, mais première terminale, on était à l'internat dans une chambre. C'était un long couloir, il y avait une trentaine de chambres. Et puis, parmi les internes, je me souviens, il y a un gars, il se lavait jamais. Et ça, quand vous vivez en communauté, ensemble, vous le remarquez rapidement. En internat, je vous assure, vous le remarquez rapidement. Mais quand je dis qu'il se lavait jamais, il se lavait jamais. Ça veut dire que quand il arrivait, alors peut-être le week-end, si le week-end sans doute. Ce qui fait que quand il arrivait le lundi, ok, bon, déjà c'était pas toujours évident, mais le lundi ça allait. Mais alors le vendredi, je vous dis pas quoi. Ça devenait intenable. Il passait jamais à la douche. Quand il revenait du sport, non plus. Donc vous imaginez qu'au bout d'un certain moment, ça devenait difficile. Je suis allé une fois dans sa chambre pour aller chercher un truc, je ne suis pas resté longtemps. Oui, aïe, aïe. Et il y avait une chose qu'on redoutait tous. Quand on avait terminé le goûter, on allait dans nos chambres et on avait 2 heures pour faire nos devoirs, pour faire tout notre travail. Et au bout des 2 heures, on avait le droit d'aller se rendre visite dans les chambres. Et le truc qu'on redoutait tous, c'était que lui, il vienne nous rendre visite dans notre chambre. Ça m'est arrivé quelquefois, assez vite, t'abrèges la conversation en fait. Hein. Déjà, c'est difficile de parler en face, alors, tu parles, t'es comme ça, ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Mais tu renchéris pas trop en réalité. Et une fois qu'il était parti, mais le réflexe de tout le monde à chaque fois, c'était d'ouvrir la fenêtre. Même en décembre, en janvier, même s'il neigeait dehors, mais parce que c'était pas possible, quoi. Et voilà qu'un jour, on était plusieurs dans une chambre, et il arrive. Il frappe, pom, pom, pom. Et il rentre dans la pièce. Et il s'était parfumé. Il avait mis du parfum. Mais, comme tu dis, il s'était pas lavé. Il s'était parfumé, mais sans se laver. Donc on sent que le gars, il avait quand même fait un effort pour être intégré. Parce que des fois, on lui avait dit, mais arrête, mais tu pues, sérieux, va te laver, quoi. Mais non, jamais. Donc il fait un effort pour s'intégrer, pour être avec les autres. Mais qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait essayé de camoufler sa mauvaise odeur en se parfumant. Et le problème, c'est que l'odeur du parfum s'est mélangée à toutes les autres odeurs en fait, qu'il avait accumulées depuis le début de la semaine. Ça faisait un mélange, mais oh, tu tournais de l'œil presque. L'intégration n'a pas marché, hein, ça c'est clair. Tu sais, ce qui va se dégager vraiment de ta vie, c'est ta sincérité. C'est la vérité avec laquelle tu vis les choses. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu qui nous envoie vers les autres. Et nous parlons avec sincérité, avec vérité. Si tes paroles sont en contradiction avec ce que tu vis, il y a peu de chances que tu sois écouté ou que tu sois même crédible. Et ta vie chrétienne, à ce moment-là, c'est juste de l'emballage. C'est juste du camouflage, juste du maquillage. Le principal moteur, la principale chose qui va te donner envie de partager ce que tu as reçu de la part du Seigneur avec ceux qui t'entourent, c'est ton amour pour Christ. Là, vraiment, tu n'as pas de questions à te poser, tu n'as pas de crainte à avoir. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, si tu aimes Christ, assez naturellement, tu vas aller vers les autres pour leur parler. C'est ce qui te conduira à avoir une vie qui fait la différence. Parce que c'est ta relation avec Christ et c'est ton désir de lui être agréable qui fera la différence. Être sincère. Avec Dieu, rien n'est caché. Nos fautes, nos erreurs, on peut pas les cacher à Dieu. Ce que l'on est, il le voit pleinement. Alors, si j'ai pleinement conscience de cela, si comme Paul le dit, là, nous parlons avec sincérité en sa présence, parce qu'il me voit tel que je suis. Si j'ai pleinement conscience de ça, ça me conduit à une grande honnêteté. Si je ne peux rien cacher à Dieu, alors autant lui confier mes défauts, autant lui parler de mes faiblesses, autant lui dire les fautes que j'ai pu commettre pour que, par son esprit, il puisse agir en moi et il puisse me changer. Dieu, il ne nous condamne pas. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui nous juge, ce n'est pas un Dieu qui nous condamne, c'est un Dieu qui nous accueille, qui nous pardonne, qui nous aime et qui nous dit, bah, peut-être que tu es comme ça, mais si tu me le confies, je peux le changer. Il faut juste cette sincérité, cette vérité. Et c'est ce qui nous permet de recevoir ce que nous pourrons diffuser par la suite, ce que nous pourrons répandre par la suite. Il y a quelques années, on avait une amie proche, et cette amie, elle avait un odorat super délicat. Sa perception des odeurs était au-dessus de la moyenne. Elle pouvait capter pratiquement n'importe quelle odeur. Et c'est ce qui fait que quand il y avait des bonnes odeurs dans les parages, c'était pas trop gênant. Mais quand il y avait des mauvaises odeurs, elle était beaucoup plus facilement incommodée en raison de cette perception qu'elle avait facilement des odeurs. Je me souviens d'une fois où on était dans la cuisine, on était en train de parler avec elle. Et puis, à un moment donné, Sandrine, elle a ouvert le frigo. Elle était à 3-4 mètres, moi j'étais au même niveau qu'elle. Et quand Sandrine a ouvert le frigo, en fait, elle s'est détournée. Elle a eu un petit geste délicat comme ça. Oups. Parce que l'odeur des aliments, la viande, les légumes, le fromage, tout ça, pourtant elle était loin, poum, c'est comme un nuage qui est venu directement. Moi j'étais au même niveau, mais j'ai absolument rien senti. Elle avait une extrême sensibilité comme ça pour la perception des odeurs. Et on avait l'impression qu'elle pouvait capter absolument toutes les odeurs. Toutes les odeurs, ça veut dire qu'elle pouvait capter aussi ton odeur. Alors c'était des fois un peu intimidant quand même. Quand tu étais dans sa présence, tu te dis, si tu avais un peu transpiré, tu te dis, mais elle sent quoi? Elle sent la transpiration. C'était un peu voilà, comme ça. Quand elle venait à la maison, moi je faisais le maximum pour pouvoir lui être agréable. Hein. Je savais, 5 minutes avant qu'elle arrive, je montais dans la salle de bain, je me lavais les dents, je remettais du déo, je changeais mes chaussettes. Vraiment pour qu'elle puisse percevoir la meilleure odeur possible. Je craignais un peu d'être dans sa présence, mais en même temps j'avais envie parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. J'ai passé des heures entières, on a passé des heures entières avec cet ami. Je savais que rien n'échapperait à son odorat. Et je faisais le maximum pour pouvoir profiter de sa présence. Paul pose la question au verset 16. Il dit, mais qui donc est qualifié pour une telle mission? Qui donc est qualifié pour répandre ce parfum de la connaissance de Christ? Et il répond en disant que ce sont ceux qui sont conscients de la présence de Dieu et qui font preuve de sincérité et d'honnêteté dans leur relation avec Christ. Ce sont ceux qui ont la disposition pour laisser Dieu leur parler, pour laisser Dieu les transformer. Et c'est pour ça que les uns et les autres, on a besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, peut-être que des fois, on n'est pas très à l'aise parce qu'on se dit, est-ce que je vais sentir bon dans la présence de Dieu par rapport à mon caractère, ma personnalité, ou ce que j'ai dit, ce que j'ai fait? Mais c'est d'avoir cette disposition en disant, Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis. Et ce que je veux, c'est recevoir de toi pour pouvoir diffuser, pour pouvoir être moi-même ce parfum, pour pouvoir être en mesure de faire la différence là où je suis. Parce que ce que je vis avec toi, j'ai tellement envie que les autres qui sont autour de moi le vivent à leur tour. Le bonheur et la joie que j'ai de te connaître, je voudrais tellement que ceux qui sont autour de moi, là, à la fac, au travail, dans ma famille, je voudrais tellement qu'ils le sachent. Ce que tu as accompli dans ma vie, j'étais dans les problèmes, j'étais dans le désarroi, mais j'ai pu me tourner vers toi, j'ai pu prier. Et t'es venu, t'as répondu, tu m'as sorti des affaires impossibles. Et je voudrais que les autres sachent qu'il y a un recours. Je voudrais que les autres sachent qu'ils peuvent s'adresser à toi. Alors peut-être que tu te sens pas qualifié pour ça. Et c'est presque normal. Mais on va pouvoir l'être grâce à ce qu'il va nous donner dans sa présence. Si Dieu est amour, il va nous donner cet amour qu'on va pouvoir diffuser. Si Dieu est joie, il va nous donner cette joie qu'on va pouvoir diffuser. Si Dieu est paix, on va pouvoir recevoir la paix qu'on va pouvoir diffuser. Il y a parmi les parfums, tous les parfums ont un nom. Et vous avez par exemple sport. Et vous savez souvent on dit sport by Dior. Ou flower by Kenzo. Ou trésor by Lancôme, ou Angel by Thierry Mugler. Moi, je vous présente ça. C'est un nouveau parfum, il vient de sortir. Mais vous pouvez mettre votre prénom, Guillaume by Jesus, Mathilde by Jesus, Pierre-Yves by Jesus, et ainsi de suite. On peut mettre son prénom. Seigneur, c'est ma prière, je voudrais être ce parfum. Je voudrais là, pouvoir diffuser cette bonne odeur qui annonce ta personne, qui annonce qui tu es, qui annonce ton amour, qui annonce ta paix, qui annonce ta joie, toutes ces choses. On va ensemble se recueillir. On peut se placer devant Dieu les uns et les autres. En toute simplicité, en toute honnêteté, en toute sincérité, comme Paul nous y encourage. On est persuadé, et soyez persuadés qu'il nous accueille tel que nous sommes. Mais en même temps, il nous conduit dans cette responsabilité de pouvoir être ce parfum. Alors on va se recueillir, on va prier ensemble. Je vous invite à placer devant Dieu ce qui vous a interpellé dans ce qu'on a pu partager ce soir. Là, peut-être que vous avez capté où sont vos faiblesses, où vous avez besoin de changer, où vous avez besoin d'être transformé. Mais croyez que le Saint-Esprit peut le faire, croyez que Dieu peut le faire. Même ce soir, à l'écoute de sa parole, il peut faire quelque chose, il peut opérer ce changement que nous, même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas faire. C'est juste une question de foi. Qu'il puisse vraiment, on puisse apprendre à aimer Jésus, on puisse vraiment apprendre à aimer Dieu, pour que naturellement on puisse être ce parfum et diffuser autour de nous quelque chose qui se remarque, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Je crois que c'est comme ça que le monde change. C'est comme ça là qu'on peut faire évoluer les choses autour de nous, parce que on transmet la patience, parce qu'on transmet la paix, parce qu'on transmet la joie. On va prier ensemble avant de reprendre un chant. Seigneur, c'est vrai que nous venons devant toi en réalisant peut-être notre faiblesse, en réalisant que on n'est pas forcément à la hauteur de ce que dit ta parole. Mais on veut le confesser parce que on sait que tu peux là agir en nous. Tu peux nous aider. Tu peux nous aider à prendre conscience de ces choses déjà par ton esprit. Tu peux nous mettre face à cette responsabilité qui est la nôtre, de pouvoir être ce parfum de la connaissance de Christ. Ce parfum de Jésus. Seigneur, tu peux nous aider aussi à changer là où nous avons besoin de changer. Toi, là où j'ai besoin de plus de maîtrise de soi, plus de maîtrise de moi-même, là où j'ai besoin de plus de patience. Toi, Seigneur, que bien souvent, c'est la tristesse, c'est le défaitisme, je suis négatif, et c'est ça que je transmets autour de moi. Mais Seigneur, je ne veux plus transmettre ça. Je veux être positif, je veux avoir des paroles d'encouragement. Et je voudrais que les gens puissent remarquer que tout ça, ça vient de toi, pour que je puisse partager mon espérance, je puisse partager combien c'est bon de t'appartenir, combien c'est bon de te connaître, que je puisse dire autour de moi qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espérance, que les gens peuvent changer comme moi j'ai changé, que tu peux agir dans des circonstances et des situations comme tu as agi dans la mienne. Alors que là j'étais abattu et qu'il n'y avait pas de solution, et bien tu as changé les choses. Merci Seigneur. Agis par ton esprit, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Nous voulons vraiment t'ouvrir notre cœur, avoir cette démarche de sincérité, d'honnêteté, pour que tu puisses agir et faire de nous ce parfum.